Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre gars, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Virginie a toujours voulu devenir mère et souhaitait avoir 2 enfants d'âge rapproché. Après avoir eu son 2e garçon, elle pensait vivre sa dernière grossesse, mais le destin et surtout son altruisme vont tout bouleverser. Le frère de Virginie est homosexuel et avec son mari, ils ont le doux rêve de pouvoir devenir papa un jour. En Belgique, où vit Virginie, la GPA, qui est la gestation pour autrui, est légale. Cependant, il n'y a pas, comme dans d'autres pays, des agences qui mettent en relation les mères porteuses et les demandeurs. Alors le frère de Virginie lui demande si elle serait d'accord pour porter son bébé. Chose qu'elle refuse, ne se sentant pas capable de se séparer de l'enfant le jour de l'accouchement. Le couple d'hommes se tourne donc vers l'adoption, mais la procédure est longue et compliquée. Le temps passe, et l'idée de devenir mère porteuse mûrit dans l'esprit de Virginie. Elle réfléchit beaucoup, discute des heures avec son mari, passe par toutes les émotions avant d'annoncer à son frère qu'elle accepte de porter son bébé. Après les larmes de joie, le parcours commence et Virginie tombe enceinte assez rapidement. Dans cet épisode, elle nous raconte son cheminement jusqu'à la décision de devenir mère porteuse, toutes les émotions qui la traversent avant, pendant et après l'accouchement, comment ses enfants ont vécu sa GPA et le regard qu'elle porte sur cet incroyable cadeau de la vie qu'elle a fait à son frère. Une expérience qu'elle partage en toute transparence avec ce mélange de sentiments que sont le bonheur de faire plaisir et la tristesse de se séparer d'un bébé qu'on a porté. Bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec grand plaisir.
Alors, tu es la maman de 2 enfants, 2 garçons. Quel âge ils ont ?
Donc, effectivement, je suis maman de 2 garçons qui ont 8 et 6 ans. Noam et Eden.
Et tu as un petit accent qui vient tout droit de Belgique.
Tout à fait. À l'origine, je suis bruxelloise. Et ça fait quand même pas mal d'années que j'habite maintenant dans les Ardennes belges. D'où mon accent.
Ouais. Alors, on va revenir au tout début. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu avais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours souhaité... devenir maman un jour, quel regard tu portais là-dessus ?
Alors effectivement, dans ma tête, il était clair que je voulais être maman depuis toujours. Et une maman jeune aussi. Bon, il y a beaucoup plus jeune que moi, mais mon premier loulou, je l'ai eu alors que j'allais avoir 25 ans. Okay. Donc voilà, je voulais être encore jeune et pleine d'énergie. Et en fait, mon 2e garçon, je voulais l'avoir très vite après mon premier. Et ils ont 19 mois d'écart, en fait, tous les deux. Donc voilà, mais oui, depuis toujours, j'ai voulu avoir des enfants, en fait. Je voulais être maman, c'était certain.
Et alors, comment est venue la décision au sein du couple ?
Alors, en fait, ça s'est fait très naturellement. Avec mon mari, on a été... ça fait depuis qu'on a 18 ans que nous sommes ensemble. Donc, ça fait 16 ans que nous sommes en couple aujourd'hui. Et donc, voilà, on a acheté une maison. Et ensuite, tout naturellement, on s'est dit que nous aimerions avoir tous les deux des bébés. Et d'abord, je voulais n'en avoir qu'un, en fait. Mais très vite, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut qu'il soit 2. Et puis voilà, mais ça s'est fait vraiment très naturellement et je suis tombée assez facilement enceinte en fait. Pour Noam, il m'a fallu 6 mois et Eden, 1 mois et demi. Donc ça a été relativement vite, on a eu beaucoup de chance.
Et comment s'est passée ta première grossesse ?
très facilement. J'étais à 25 ans, en pleine santé, en pleine forme. Tout s'est très très bien passé, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. J'ai souffert, bien évidemment, comme toutes les femmes souffrent lors d'un accouchement naturel, mais...
Tu avais fait un accouchement physiologique sans péridurale ?
Si, avec péridurale quand même, mais je veux dire, pas de césarienne, quoi.
D'accord, par voie basse.
Par voie basse, pour mon deuxième également. Alors mon deuxième, vu qu'il n'y avait que quelques mois d'écart j'étais enceinte d'Eden, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de mon corps, j'aurais dû attendre encore un petit peu, parce que du coup, je l'ai porté très bas. Mon utérus n'a pas eu le temps de se remettre comme il fallait de ma première grossesse, et donc... Des grosses douleurs de dos, mais sinon, à part ça, tout s'est très bien passé pour mes deux grossesses et mes deux accouchements.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Oui. Pour mon premier, bon, j'avoue que quand même, j'ai été une maman très stressée quand même. J'avais peur de plein de choses. Je me souviens que pour mon premier, Noam, j'avais très peur de la mort subite. Et donc, pendant un an, en fait, il a dormi dans son lit à lui, mais dans notre chambre, donc à côté de notre lit à nous. Et toutes les nuits, je me réveillais, mais tout le temps, pour écouter s'il respirait bien, sentir sa respiration. Malgré que j'allaitais, donc je me réveillais déjà pas mal la nuit. Mais là, encore plus, pour écouter vraiment s'il respirait bien. Ça, c'était vraiment un stress que j'avais. La mort subite, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur.
Et est-ce que tu as allaité ?
Oui, pendant un mois et demi, en fait, au bout de 3 mois, je devais reprendre le boulot parce que j'étais encore salariée à ce moment-là. Je ne le suis plus. Là, maintenant, je suis indépendante à titre principal. Mais effectivement, je n'ai allaité que pendant un mois et demi parce qu'après, il faut sevrer et tout ça. Donc. Mais j'aurais bien aimé allaiter plus longtemps.
Et le congé maternité, il dure combien de temps en Belgique ?
Trois mois à peine. C'est très court.
Et tes garçons, tu les as mis où, du coup ?
Chez une accueillante. Une accueillante agréée par l'ONE. C'est l'Office national de l'éducation chez nous en Belgique. Et donc, c'est vraiment encadré par l'ONE. Et donc, ils ont été chez une accueillante qui faisait ça à son domicile, en fait.
D'accord. Et je me demandais aussi, est-ce que vous avez de l'aide après l'accouchement en Belgique ? Quelqu'un qui vient chez toi ou...
Quand on a un seul bébé, pas forcément. Je sais que quand on a des jumeaux ou des triplés, là oui. Mais quand on a un seul bébé, Et puis moi, je ne me sentais pas à faire la demande spécialement, donc je ne me suis pas forcément renseignée. Mais je n'ai pas eu d'aide. Ils ont vu une pédiatre directement. Mais non, sinon, je n'ai pas eu forcément d'aide.
D'accord. Et alors, deux enfants, tu t'es dit que tu allais t'arrêter là, t'en voulais pas plus par la suite ?
Tout à fait. Pour ça, avec mon mari, on était totalement d'accord de s'arrêter à deux. Donc voilà, parce que c'était très bien comme ça.
Oui. Et en fait, tu es quand même retombée enceinte parce que donc tu vas nous raconter cette histoire et cette merveilleuse aventure que tu as faite pour ton frère. Donc,
oui.
Ton frère est homosexuel.
Tout à fait. Donc, j'ai appris son homosexualité. C'est lui qui me l'a annoncé dès son adolescence, je pense, qu'il devait avoir 14-15 ans. Et il me l'a dit à moi parce qu'il avait très peur de la réaction de ma maman, malgré son ouverture d'esprit. Mais vraiment, il avait quand même peur parce qu'il entendait autour de lui d'autres homosexuels qui se faisaient rejeter par leur famille. Et donc, j'ai été la première vers qui il est venu pour annoncer son homosexualité. Et pour moi, ça a coulé très facilement. Vraiment, il n'y a eu aucun souci par rapport à ça. Je l'ai dit à ma maman, elle l'a prise dans ses bras, elle lui a dit « Mais Gaëtan, mais t'es mon fils !» Elle l'a très bien pris aussi. Vraiment, il n'y a eu aucun problème au niveau de la famille par rapport à son homosexualité.
C'est ton petit frère ou ton grand frère ?
C'est mon petit frère. Il a 2 ans et demi en moins que moi.
D'accord.
Et en fait, pour raconter l'histoire, en fait, il m'a demandé une première fois si je voulais être sa mère porteuse il y a 3 ans et demi, 4 ans d'ici. Mais il y a 3 ans et demi, 4 ans, mon petit dernier, Eden, donc, n'avait que 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, je lui ai dit clairement non.
Comment t'as réagi, toi, à cette demande?
Je m'en sentais absolument pas capable.
Comment il t'a demandé, d'ailleurs?
Tout naturellement, on voudrait un bébé. Mais ça, depuis toujours, il voulait un bébé. Même avant d'être avec son compagnon, mon beau-frère. Donc, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Même avant d'être avec Raphaël, ils voulaient déjà avoir un enfant. Tous les deux, de leur côté, voulaient vraiment devenir papa.
D'accord.
Même quand il était ado, il m'a toujours dit « moi, je veux un enfant ». Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait depuis toujours. Et donc, tout naturellement, il m'a demandé à moi « est-ce que tu voudrais être notre mère porteuse ?» Parce que nous aimerions avoir un bébé. Et il ne voulait pas passer par l'adoption à ce moment-là. Et donc, moi, je m'en sentais mais vraiment pas capable du tout.
Tu t'es dit quoi ?
Je me suis dit non, impossible, impossible.
Pourquoi ?
En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis sûre que c'est ça pour la plupart des mamans. En fait, quand il me l'a demandé, je me suis revue au moment de l'accouchement et à la venue de mes deux garçons. On souffre pendant des heures et des heures, on pousse comme des malades, les contractions et tout ça, ça fait très mal, hein, on va pas le cacher. Mais alors, quand ils sortent le bébé et quand ils le mettent sur nous, c'est vraiment à ce moment-là qu'on tombe amoureuse de notre bébé, en fait. Enfin, je veux dire, moi, c'est vraiment le moment magique où on sent leur peau, on sent leur odeur, on les a contre nous. C'est vraiment à ce moment-là que je tombe littéralement amoureuse de mon bébé. Et c'est une joie, mais immense. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir accoucher et donner l'enfant. Voilà, pour moi, c'était ce moment-là qui me paraissait improbable et je ne voulais pas d'une troisième grossesse. J'en avais pas envie. Enfin, même si mes grossesses se sont très bien passées, je me sentais bien dans mon corps, j'avais perdu du poids, je faisais du sport, je me sentais bien. Donc, je me suis dit, oh non, retomber enceinte et tout ça, non, je voulais pas. Enfin, c'était juste improbable dans ma tête.
Est-ce que c'était difficile de lui dire non, du coup, à ce moment-là, et lui, comment il l'a pris ?
C'était difficile, bien évidemment, parce que je suis profondément altruiste, et ça depuis toujours. Je suis vraiment quelqu'un qui est là pour aider les autres plus que moi-même. Enfin, ça c'est Virginie, quoi. C'est moi, voilà, je suis comme ça. Et alors, bien évidemment, il a été déçu, mais il a compris. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, quoi.
Il avait peur de te demander ?
Peur, je ne pense pas, parce qu'en fait, c'est dans nos gènes, on est comme ça, on est très extraverti, on est très franc, on est comme ça, en fait. Et donc, quand on a des envies, quand on a besoin de demander quelque chose, on le demande, en fait, et c'est pas un problème dans la famille.
Et il avait la possibilité de demander à d'autres femmes, j'imagine, d'être mère porteuse.
Il a demandé à d'autres personnes, à toutes les femmes de son entourage qui auraient été capables de porter un bébé et qui étaient en âge pour le faire, en fait.
D'accord.
Ils ont vraiment demandé à tout le monde, sans succès.
Parce que du coup, donc, c'est légal en Belgique, chose qui
oui.
C'est pas le cas en France.
Via l'avocat, on a même appris que c'était légal en Wallonie, mais pas en Flandre.
D'accord, ok. Et alors, il n'y a pas d'organisme de mère porteuse ou de, comme aux États-Unis un petit peu, où on peut avoir une liste de personnes ou faire rencontrer.
Non, il n'y a pas ça. Alors, il faut savoir que c'est légal, mais en fait, il y a vraiment un trou juridique. Donc, il n'y a pas de loi pour ni de loi contre. En fait, c'est toléré. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un organisme comme, effectivement, en Ukraine, aux États-Unis et tout ça, dans plusieurs pays. Mais en fait, il y a effectivement en Belgique 4 hôpitaux, par contre, qui veulent bien encadrer les projets de mère porteuse sous certaines conditions. Mais sinon, il n'y a pas d'organisme avec une liste de mères porteuses. Voilà, ça, il n'y a pas. En tout cas, je n'en ai pas du tout connaissance et je ne pense pas qu'il y en ait.
Oui, donc il était obligé effectivement de demander à son entourage.
Oui.
D'accord. Donc là, tu lui dis non. et tout le monde lui dit non. Est-ce que toi, ça te reste dans la tête, cette demande, ou tu passes assez vite à autre chose?
Un petit peu, mais sans plus. Ouais. Sans plus. Je pense que... Voilà, après, ce qu'il y a, c'est aussi qu'il est très vite passé à l'adoption.
D'accord.
Mais ça a été vraiment très compliqué, hein. Très, très lourd. Donc, vu par des assistantes sociales, des psychologues, il venait chez lui voir comment était sa maison. Et aussi, il faut savoir que, par exemple, un couple homosexuel par rapport à un couple hétéro, ils ont plus dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils pouvaient adopter qu'en Belgique ou en Colombie, qu'un couple hétéro peut, a beaucoup plus de choix. Et en fait, il faut savoir qu'une une femme qui est enceinte et qui donne son bébé à l'adoption lors de l'accouchement, elle a le choix entre un couple hétéro ou un couple homosexuel.
D'accord.
Et donc, du coup, ce qui limite aussi fortement la possibilité pour eux d'adopter. Et donc, ça, en fait, ça, cette procédure a duré quand même, je pense, 1 an ou 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en janvier 2020, l'année dernière, il y a eu un changement dans le décret. Et donc, du coup, ça a ramené la procédure en arrière.
Ah oui.
Oui, et donc là, gros moment très difficile pour mon frère et mon beau-frère. Voilà, parce que là, du coup, ils étaient totalement découragés et démotivés, quoi.
Et toi, tu te sens comment à ce moment-là ? Est-ce que parfois tu culpabilisais de ne pas avoir adhéré à leur projet ?
Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, tout le long de l'adoption, ben, je leur ai demandé à plusieurs moments comment ça se passait. Et ils me disaient, bah, écoute, ça avance, c'est dur, mais, et c'est long et c'est lourd, mais voilà, ça avance. Ils avaient beaucoup de rendez-vous et tout ça. Ils devaient demander congé, enfin... Voilà, mais alors, en fait, justement, au moment de ce changement de décret, l'année dernière, en janvier... C'est le moment où j'ai commencé à y réfléchir. Parce qu'en fait, je t'explique. Donc, l'année dernière, en janvier 2020, on se retrouve chez mon frère en week-end avec mon mari, mes enfants. Et on est en train de manger. Et donc, je pose la question à mon frère. Tiens, l'adoption, la procédure et tout ça, ça en est où ? Et là, il me dit cette phrase. Ben, écoute, si ça continue comme ça, dans 5 ans, je ne serai toujours pas papa. Et donc là, bah, je vois sa détresse, je le sens. Et donc, ça a fait un déclic dans ma tête, en fait. Ça a fait écho en moi, mais je lui ai rien dit. Je lui dis, oh, zut, comment ça se fait et tout. Et il m'explique, hein, le décret qui a changé, ben, ça ramène la procédure en arrière. Ils doivent recommencer, pas depuis le tout début, mais bon, ils doivent recommencer quand même. Pas mal de choses. Et donc, bref, on termine de manger. Là, je suis seule avec mon mari et je lui dis avec les larmes dans les yeux. Et finalement, est-ce que tu penses pas que je le ferai ?
Alors lui, comment ton mari avait pris la demande la première fois ?
Je pense qu'il était d'accord avec moi. Voilà, je pense que... En fait, ce qu'il y a, c'est que mon mari, il faut savoir que depuis toujours, il me soutient dans toutes mes décisions, en fait. Qu'elle soit positive ou négative, en général, il me soutient, mais toujours en essayant de me conseiller. Enfin, il faut savoir que dans notre couple, j'ai un petit peu le caractère fort. Comme je te disais, hein, je suis extravertie et tout ça. Lui, il est plutôt introverti, calme. Moi, je suis plutôt extravertie et nerveuse et pleine d'énergie. Donc, voilà, c'est un petit peu moi, oui, le caractère plus fort dans notre couple. Mais bon, après, je suis toujours là à l'écoute de ses bons conseils parce qu'il est vraiment de bons conseils. Mais à ce moment-là, quand j'avais dit non, il y a 3-4 ans d'ici, je me souviens plus trop de sa réaction, mais je pense qu'il me suivait, en fait. Et donc ici, j'en reviens à l'année dernière du mois de janvier 2020. Et là, il me dit, il m'a dit, je me souviens plus trop, mais... Il avait l'air d'accord avec moi. Enfin, il m'a dit, écoute, il faut en parler, il faut qu'on réfléchisse. C'est pas une décision à prendre à la légère. Donc, et puis on était chez mon frère. Et en fait, je voulais pas lui en parler parce que je voulais pas lui donner de faux espoirs.
Oui.
Au cas où, oui, voilà, au cas où je décidais de ne pas le faire, en fait. Et là, pendant un mois, ça n'a pas arrêté dans ma tête. Jour et nuit, je n'ai pensé qu'à ça. J'ai passé de très mauvaises nuits parce que vraiment, mon cerveau n'a pas arrêté, en fait.
Tu te disais quoi ?
Je pensais à plein de choses. Je pensais au sacrifice, je pensais à ce que ça engendrait pour mes enfants, à ce que ça engendrait pour mon mari, pour moi, pour mon corps, pour mon psychologique, pour mon moral. Est-ce que j'allais être assez forte pour le faire ? Donc voilà. Et en fait, ce qui a changé dans ma vie aussi, il faut que je le dise, c'est entre la première fois où il m'a demandé, j'ai dit non, et en janvier 2020 où j'y ai quand même réfléchi, c'est que j'ai eu mon activité dans le marketing de réseau et j'ai fait du développement personnel grâce à cette activité, parce que sinon le développement personnel avant ça je ne connaissais absolument pas, et je pense que ça m'a aidée et que j'ai eu encore plus confiance en moi que par rapport à avant en fait, et je pense que ça a joué. Ce qui a surtout joué, c'est la détresse de mon frère et mon amour pour lui et pour mon beau-frère que j'aime énormément aussi. Enfin, je les aime tous les deux très fort. Mais je pense que le développement personnel a beaucoup joué aussi. Et donc, j'avais plus confiance en moi. Je me suis sentie plus forte. Mais pendant un mois, ça n'a pas arrêté. Les questionnements, les incertitudes et mes enfants et mon mari et ma vie. Et est-ce que je vais être assez forte pour donner le bébé à l'accouchement.
T'en parlais beaucoup avec ton mari ?
On en parlait beaucoup.
Oui.
Beaucoup. Et il y a juste, j'en ai juste parlé à ma maman aussi.
Ah oui.
Voilà, c'est les deux seules personnes à qui j'en ai parlé, parce que pendant tout le mois, j'en ai absolument pas touché un seul mot à mon frère, ni à mon beau-frère, parce que vraiment, si ma décision était non, je voulais absolument pas leur donner encore plus de peine, en fait. Donc voilà, c'était hors de question. Et ma maman, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit mais voilà, que ce serait vraiment, elle serait vraiment très heureuse pour mon frère et que ce serait vraiment très beau pour lui, mais elle avait aussi très peur pour moi.
Eh oui, là, elle est dans le cas où c'est un cas difficile, oui, pour elle aussi, effectivement, de te conseiller
oui.
pour ses deux enfants.
C'est ça. Et donc, au bout d'un mois, avec mon mari, voilà, on s'est dit, c'est bon, on va le faire. Je vais le faire, je vais porter leur bébé.
Tu te souviens du moment où la décision a été vraiment prise définitivement dans ta tête et dans ton couple ?
Non, parce que je pense que ça s'est fait crescendo, en fait.
Ouais.
Je me suis dit, si j'y pense autant, si ça me tourne autant dans le cerveau, il faut que je le fasse, en fait. Il faut que je le fasse. C'est venu crescendo. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, c'est bon, je vais le faire. En fait, de fil en aiguille, au cours des discussions avec mon mari, ça s'est fait naturellement, en fait.
Ouais.
Mais ce que je savais, c'est que je voulais l'annoncer d'une façon originale à mon frère. Et pas le jour où je l'ai annoncé, en fait. Parce que le jour où je l'ai annoncé, en fait, on s'est retrouvés en famille chez ma tante, donc c'est la sœur de mon papa qui est décédé.
D'accord.
Voilà, on voit encore très, très souvent ma tante, mon cousin du côté de mon papa. On est fort proches, malgré que ça fait 19 ans que mon papa est décédé maintenant. Et en fait, donc on s'est retrouvés en famille à Anu, hein, donc chez ma tante. Il y avait mon cousin, mon oncle, ma maman, mon frère, mon beau-frère, mon mari, mes enfants. Il y avait tout le monde qui était là et on est en train de discuter en buvant un verre avec ma tante et elle on en vient à parler de l'adoption. Et donc, voilà, mon frère lui explique que le décret a changé, qu'ils sont démotivés, ils n'ont plus envie, nanana. Et ma tante dit, mais c'est pas possible. Et au niveau des mères porteuses, est-ce que vous avez demandé à un tel, à un tel, à un tel ? Et là, elle me regarde. Et elle me dit, et toi Virginie, tu le ferais vraiment pas, nanana. Et là, je me dis en moi-même, ou je ne sais plus si je l'ai dit tout haut, ou si je me le suis dit en moi-même, je me dis non, c'est pas vrai. Fais chier.
La surprise est gâchée.
Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que je suis incapable de mentir. On lit en moi comme dans un livre ouvert. Et donc, ça s'est vu sur mon visage. J'ai commencé à avoir les larmes qui me sont montées aux yeux et j'ai regardé mon frère et mon beau-frère. Et voilà, je suis très émue, j'ai ma gorge qui est serrée parce que ce moment, je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, je ne l'oublierai jamais. Je regarde mon frère et mon beau-frère et je leur dis, c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire.
Ah là là.
Ouais, donc, pardon, je suis émue.
Je t'en prie.
Ça va aller. Et donc là, mon frère commence à pleurer. Moi, quand je pleure, tout le monde pleure, sauf mon beau-frère. En fait, je pense qu'il était totalement en choc. Il réalisait pas. Il m'a regardé d'un air béat en disant, t'es la meilleure, enfin, c'est génial. Mais voilà, je pense qu'il a vraiment pas réalisé. Mais même mon oncle de 60 ans, que je n'ai jamais vu pleurer, a pleuré, quoi. Enfin. Ouais. C'était vraiment un moment très fort. Ma maman m'a prise dans ses bras, mon frère. Alors, mes enfants, du coup, c'était pas prévu qu'on l'annonce ce jour-là, donc ils n'étaient pas encore au courant. Donc, mon mari a vite été près d'eux pour, voilà, leur expliquer ce qui se passait, parce qu'ils se demandaient, ben, c'est quoi cette effervescence? Pourquoi tout le monde pleure? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, mon mari est allé leur expliquer avec des mots d'enfant, hein, voilà ce qui allait se passer.
Comment ils ont réagi, tes enfants?
Très bien. Très bien, dès le début. Dès le début, voilà, après, par la suite, on a vu des psychologues, même en présence de mes enfants, ils nous ont dit qu'on avait très bien fait. En fait, pour les enfants, il faut pas de non-dits, il faut pas de mensonges. Il faut leur expliquer les choses comme elles sont. Pas dans les détails, on est bien d'accord, parce que de toute façon, ça ne les intéresse pas. Mais dès le début, ils ont compris que j'allais porter leur petite cousine et pas leur sœur, en fait.
Ouais.
Ils l'ont très bien pris dès le début, encore mieux que ce que je n'espérais, en fait.
Génial.
Ouais. Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'était vraiment l'une de mes plus grosses craintes. Vraiment, c'était mes enfants.
Alors, une fois que la décision est prise, que tout le monde est au courant, comment ça s'organise? Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites en premier lieu?
Alors, en premier lieu, donc ça s'est passé le week-end. Le lundi qui a suivi, j'ai téléphoné à ma gynécologue, mais qui était au courant, hein, que mon frère était homosexuel, parce que ma maman lui avait posé la question. On a la même gynécologue. Ma maman voulait porter l'enfant de mon frère, mais trop âgé, enfin, trop de risques. Ouais. La gynécologue l'a même engueulée, quoi. Elle lui a dit, mais non, mais vous êtes folle, enfin, vous ne réalisez pas, voilà, beaucoup de risques et tout ça. Enfin, ma maman, elle a eu des accouchements très difficiles qui ont duré plus de 24 heures. Donc, enfin, la gynécologue a dit hors de question. Et donc, la gynécologue était au courant que mon frère est homosexuel et voulait un bébé. Et donc, bah voilà, moi, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, bah voilà, écoutez, docteur, je vais faire mère porteuse pour mon frère. Est-ce que vous êtes d'accord de nous suivre? Elle a dit oui, pas de souci, bien sûr. De quel droit je pourrais ne pas vous suivre? Enfin, voilà, quoi. Et donc, en fait, il faut savoir que ma gynécologue a un cabinet privé à Libramont, donc tout près de chez moi.
D'accord.
Elle me suit depuis que je suis adolescente. Avant, elle travaillait avec l'hôpital de Libramont, mais depuis quelques années, elle travaille avec l'hôpital de la Citadelle de Liège, qui est un des hôpitaux, justement, qui encadre les mères porteuses.
D'accord, ok.
Ma chance.
Ah oui, donc parfait.
Parfait. Parfait. Et alors, après, on a des rendez-vous avec une psychologue de la Citadelle. On a rendez-vous avec ma gynécologue pour parler du projet avec mon mari. Mon frère, de son côté, a rendez-vous aussi avec ma gynécologue et mon beau-frère. Voilà, pour qu'ils expliquent un petit peu le projet, pour qu'ils expliquent un petit peu leurs envies. Parce que ma gynécologue voulait s'assurer aussi qu'elle faisait ça pour des personnes réfléchies, qui en avaient un minimum dans la tête, pas pour n'importe qui. Enfin, elle voulait s'assurer que le projet soit vraiment bien réfléchi. Et enfin, voilà, je pense que c'est logique, quoi.
Ouais.
Qu'elle fasse pas ça pour des gens à qui c'est venu comme ça dans la tête. Ah oui, pourquoi je le ferais pas? Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, tous les rendez-vous. Et alors, en fait, ça devait passer en conseil à l'hôpital de la Citadelle, et ils devaient dire s'ils acceptaient d'encadrer le projet ou non.
D'accord.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dit non, ils ne voulaient pas encadrer le dossier. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de donneuse d'ovules.
Ah.
Voilà. En fait, la condition, c'était que mon frère et mon beau-frère devaient trouver une donneuse d'ovules. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça, je l'ai appris plus tard, mais légalement, je pouvais donner mon ovule, mais là, psychologiquement, c'était juste pas possible.
Ah oui, d'accord.
De nouveau, ils ont demandé à la famille, à l'entourage et tout ça, si quelqu'un voulait bien donner son ovule, sans succès.
Ah oui?
Ouais, et donc voilà, la Citadelle a dit non, écoutez, on n'encadre pas le projet parce que tout simplement, on n'a pas de base de données de donneuses d'ovules.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc, là, j'ai mon docteur, le docteur, ma gynécologue au téléphone, qui me dit, mais écoutez, dans un sens, vu la conjoncture actuelle avec le coronavirus et tout ça, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, si on était passé par la Citadelle, ça aurait mis beaucoup plus de temps.
D'accord.
À cause du coronavirus. Et donc, là, mon beau-frère et mon frère commencent à chercher un gynécologue obstétricien qui aurait éventuellement une base de données avec des donneuses d'ovules anonymes, et ils ont trouvé quelqu'un du côté de Bruxelles.
Okay.
Et donc, on a rendez-vous, on explique, nanana. Et donc, le gynécologue me dit, écoutez, vous voulez commencer quand ? Là, je me suis dit en moi-même, bon, c'est bon, ils ont assez attendu, ça fait des années qu'ils veulent un enfant, et donc, commençons tout de suite.
Parce que là, entre le moment où tu as décidé, où tu as annoncé la grande nouvelle, et ce moment-là où ça s'enclenche, il s'est passé combien de temps ?
Quelques mois. Donc, la nouvelle, je l'ai annoncée en février. Et au mois d'octobre-novembre, on commence à aller chez le gynécologue en question avec la base de données de donneuses d'ovules. Et là, on fait des prises de sang, on fait des échographies. J'y vais plus ou moins toutes les semaines, une fois par semaine, voire à deux fois par semaine, pour voir en fait à quel moment j'étais prête à recevoir l'embryon en fait. Et donc là, il s'est passé quelques mois quand même entre février et octobre-novembre quoi.
Toi, t'as pas eu des moments de doute sur cette période
une
fois que la décision était prise
À partir du moment où je prenais la décision, il était certain que j'allais tenir parole, parce que ça, quand je dis quelque chose, je n'ai qu'une seule parole et je vais jusqu'au bout. Il était hors de question que je dise à un moment donné non, finalement. Même si mon frère me l'a dit à plusieurs reprises.
Ah oui.
Il m'a dit, écoute, je comprendrais que même juste avant de faire le transfert d'embryon, même juste avant, si tu me dis, écoute, non, finalement, ça ne va pas, je ne suis pas prête, il m'a dit, je comprendrais. Mais moi, dans ma tête, c'était hors de question. Il fallait que j'aille au bout. Donc voilà, parce que cette décision, je ne l'ai pas prise à la légère. C'était vraiment... c'était bien réfléchi. J'avais toutes les possibilités avaient tourné dans ma tête, en fait.
Ouais.
Et donc, voilà, au fil des rendez-vous à Bruxelles, à un moment donné, le gynécologue me téléphone et me dit, voilà, vous êtes prête. Votre follicule est assez gros au niveau de vos hormones. On est bon. Et donc, en fait, le rendez-vous est pris. Le 11 décembre, on va à l'hôpital de Jette pour faire le transfert d'embryon. Le 11 décembre. Et donc, 10 jours plus tard, je devais téléphoner et j'étais enceinte.
Ah ouais, voilà. Donc, ça a pris tout de suite.
Tout de suite. Quand je disais que je tombais très facilement enceinte, je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'encore il n'y a pas longtemps, une mère porteuse m'écrivait en me disant que voilà, pour elle, c'était le 6e essai. Quoi.
Ah oui, d'accord.
Ouais, donc voilà, pour ça, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance. Et heureusement, je pense qu'il n'a pas mis 2 embryons parce que je crois que ça aurait été des jumeaux. Quoi. Voilà.
Et alors, le jour où tu découvres que tu es enceinte, comment ça se passe ? T'es toute seule, t'es avec ton frère et ton beau-frère
Alors, donc, c'était le 21 décembre au soir et j'étais censée voir mon frère le 25 décembre pour la Noël.
Mmh.
Et donc, j'ai un appel téléphonique de ma gynécologue qui me dit, Madame Staumont, c'est positif. Et là, les émotions, je suis partagée. Je pleure, je suis contente et en même temps, j'ai pris la décision, mais c'était l'inconnu pour moi. Donc voilà, les émotions, on les...
Oui, ça se concrétise, donc là, tu les contrôles plus. Quoi.
Je ne les contrôle pas, c'est ça. Et donc là, j'étais censée attendre 4 jours pour l'annoncer à mon frère parce que je voulais pas lui annoncer par téléphone ou par message. C'était hors de question. Et il faut savoir qu'il y a quand même plus d'une heure et demie de voiture entre moi et mon frère. Et c'était le soir. Et je dis à mon mari, écoute, il faut qu'on y aille. Voilà, cette annonce ne m'appartient pas totalement. Je dois leur partager, en fait.
Ouais.
J'avais besoin de les voir et de leur partager cette annonce, ce bonheur. Enfin, voilà, il le fallait. Et donc, mon mari, il dit, écoute, OK, on fait une petite valise, vite fait, on dormira chez ton frère, on prend la route. Enfin, voilà, go, on y va, quoi. Et donc, on arrive devant la porte de mon frère, hein, qui ne s'attendait absolument pas à me voir.
Ah là là.
Et donc, je toque encore de nouveau, beaucoup d'émotions. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, voilà, je suis enceinte.
Ah là là.
Il me dit, quoi? Je suis enceinte. Et là, il me prend dans ses bras et de nouveau, il pleure, je pleure. Enfin, tout le monde pleure. Enfin, voilà, c'est un très grand moment.
Quel beau cadeau de Noël.
C'est ça, tout à fait.
Et alors, comment se passe cette grossesse? Est-ce que tu as un suivi particulier, différent de tes autres grossesses?
Oui, en fait, il faut savoir que vu que ce n'était pas mon ovule, c'était une grossesse plus à risque, en fait.
D'accord.
Et donc, par exemple, j'ai dû passer un bilan complet cardiologique avant même le transfert d'embryon. Voilà, c'est ma gynécologue qui me l'a demandé avant même de faire le transfert, parce que voilà, effectivement, c'était une grossesse plus à risque. Et en fait, au niveau aussi des examens gynécologiques, les échographies et tout ça, c'était plus fréquent, en fait, que pour mes deux premières grossesses. Mais voilà, à part ça, à part le fait d'être plus surveillée, sinon tout s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. Il y a eu l'annonce du sexe. Là aussi, ça a été un petit peu difficile. Voilà, quand on m'annonçait que c'était une petite fille, alors que moi, j'avais eu deux garçons. Parce que voilà, j'aurais aimé que mon deuxième soit une petite fille. Voilà, quand je me souviens de l'échographie pour Eden, quand elle m'a annoncé que c'était un petit garçon, voilà, j'ai été déçue, mais c'était très court. Hein. Ma déception était très courte, voilà, parce que tant qu'ils étaient en bonne santé, c'était le principal, hein, bien évidemment. Mais voilà, le fait qu'on m'annonce qu'ici, c'était une petite fille, ça m'a fait quand même un pincement au cœur. Sur le coup, j'ai eu difficile, mais j'étais très contente pour mon frère et mon beau-frère qui voulaient une petite fille.
D'accord.
Donc,
Et eux étaient là avec toi à chaque échographie?
Alors, les trois premières échographies, de nouveau, suite au coronavirus, ils n'ont pas été là. La gynécologue m'a demandé à ce qu'ils viennent qu'à partir du moment où on voyait vraiment le battement du cœur, où voilà, c'était perceptible au niveau de l'échographie, parce que j'ai eu très vite, très tôt une échographie et on ne voyait pas encore le battement du cœur. En fait, on voyait vraiment juste un petit point blanc. Et alors, les deux premières échographies se sont très bien passées, mais à la troisième, ça a été difficile. Ça a été difficile. J'ai fait l'échographie et tout ça, ça s'est très bien passé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à voir les membres se dessiner sur l'échographie. Et donc, je suis sortie de l'échographie et j'ai même sans réfléchir, même sans qu'il se soit passé quelque chose de particulier, j'ai commencé à pleurer. Enfin, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, c'est une émotion qui est arrivée. Il fallait qu'elle sorte. La psychologue m'a dit, c'est tout à fait normal ce que j'ai vécu. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est compliqué et qui n'est, dans un sens, c'est pas naturel ce que je faisais. Parce qu'une maman, quand elle porte son bébé, son bébé, il est pour elle. Voilà, donc même si j'étais OK avec tout ce qui se passait, il y a certaines émotions que je ne contrôlais pas. ça a eu du mal à sortir. Mais voilà, et après, au bout de la troisième échographie, à la quatrième, ils ont pu venir chacun à leur tour, en fait.
D'accord. Ce qui n'était pas plus mal, finalement, ouais. Que tu puisses justement gérer ces émotions et les sortir... sans culpabiliser ou sans leur faire culpabiliser eux.
Voilà. Et c'était beaucoup plus facile aussi d'être accompagnée, en fait. Et de ne plus être seule. Parce que je pense que c'était le fait d'être seule aussi qui a été dur pour moi aux trois premières échographies.
Oui. Oui.
Voilà, j'ai été seule comme en fait, en fin de compte, si c'était mon bébé à moi, alors que ce n'était pas mon bébé que je portais.
Tu étais suivie par un psychologue à ce moment-là,
ouais,
pendant la grossesse, ouais, tu le voyais régulièrement?
Régulièrement. Et par une psychologue ici de la région, qui est vraiment extraordinaire, et aussi par la psychologue de la Citadelle. Elle m'a dit que malgré que la Citadelle avait dit non pour le dossier, elle voulait quand même bien me suivre. Donc, j'ai été la voir à 2-3 reprises.
D'accord.
Parce que la différence entre la psychologue de la Citadelle et la psychologue ici de la région, c'était que la psychologue de la Citadelle avait eu des cas de mères porteuses. Même pas beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose qui reste très rare, mais la psychologue ici de la région n'a jamais eu le cas. Voilà. Mais malgré tout, elle m'a quand même très bien suivie.
Ouais. Et tu disais que tes enfants aussi étaient suivis au même moment, du coup ?
Oui, à 2-3 reprises, on a été avec les enfants, mon mari, aux séances devant les psychologues. Et voilà, parce que je voulais que mes enfants le vivent bien, quoi. C'était très important pour moi.
Tu leur expliquais au fur et à mesure de ta grossesse, parce qu'ils voyaient ton ventre grandir,
oui.
Du coup.
Bon,
eux, ça allait devenir leur petite cousine, donc peut-être.
C'est ça.
Je ne sais pas s'ils assimilent à cet âge-là.
Vraiment, ils ont très bien compris que c'était leur cousine. Et puis, à certains moments aussi, vers la fin, quand je la sentais et tout, ben, ils mettaient leurs mains sur mon ventre. Et voilà, à aucun moment donné, je n'ai vu de la tristesse dans leur regard ou de la perturbation. Pas du tout, vraiment. Ils avaient des questions très régulièrement et on y répondait le plus naturellement possible, toujours avec des mots d'enfant. Et vraiment, ça s'est très bien passé. Ils ont été adorables, adorables.
Et toi, alors, pendant ta grossesse, je ne sais pas comment tu faisais pour tes premiers bébés. Parfois, on parle à son ventre, on le caresse. Est-ce que
tout
tu t'es
fait.
Mis des barrières
Oui. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pendant les je pense, 5-6 premiers mois de la grossesse, je m'interdisais même de poser ma main sur mon ventre.
Mmh.
Et ça, j'en ai parlé à la psychologue, hein, bien évidemment, et elle m'a dit, mais c'est tout à fait naturel, en fait. Mon cerveau voulait me protéger, en fait, en gros. Donc, c'est même pas moi qui contrôlais ça, c'est vraiment mon cerveau qui m'a mis une barrière pour que j'essaye au maximum de limiter le lien qui se faisait avec le bébé, même si, bien évidemment, il y a un lien qui s'est fait.
Mmh.
Ça, c'était pas possible autrement. Et effectivement, avec mes bébés à moi, dès le début, je caressais mon ventre, je leur parlais, je me souviens dans mon bain aussi beaucoup, je leur parlais, je leur disais mon bébé, voilà, enfin voilà. Mais ici, effectivement, avec la petite, jusqu'à 5-6 mois, je me suis naturellement interdite de poser la main sur mon ventre, ainsi qu'à mon mari. Mais par contre, les enfants, alors oui, ça me faisait bizarre quand ils le faisaient, mais je les laissais faire, en fait. Et alors, quand j'ai commencé vraiment à bien la sentir, quand mon ventre a vraiment bien commencé à bien s'arrondir, ben là, j'ai commencé à poser ma main sur le ventre. Parce qu'effectivement, quand le bébé commence à bouger et tout ça, ben voilà, c'est tellement magique aussi que voilà, j'ai posé ma main sur mon ventre pour sentir ses mouvements et tout ça, mais je ne lui ai jamais parlé.
D'accord. Et est-ce que tu appréhendais le jour de l'accouchement, justement, de cette rencontre ? Tu disais qu'avant de prendre ta décision, tu appréhendais. Est-ce
oui.
que pendant ta grossesse, tu appréhendais d'autant plus ?
Pas plus, mais d'une autre manière, je pense. Mais j'appréhendais, oui, oui. Et ça, je l'ai dit au psychologue que c'était le moment qui me faisait le plus peur. Même si je savais que j'allais être partagée entre deux émotions, en fait. Et ça a été le cas. Parce qu'en fait, voilà, cette grossesse, je l'ai très bien vécue. Et j'ai pris la décision de la vivre, mais je n'en avais pas envie de cette grossesse.
Mmh.
Parce que... voilà, je n'avais pas envie de troisième bébé, donc à aucun moment donné, cette grossesse, je n'en ai eu l'envie.
Ouais.
Et voilà, ça peut être fort comme mot, mais c'est comme ça. C'est, mmh. Voilà, j'avais très envie de donner ce bébé, de faire ce cadeau de la vie. Enfin, parce qu'avoir des enfants, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir au monde, enfin, en tout cas pour moi et pour mon frère. Et j'avais très envie de faire ce cadeau et de tenir ma promesse et d'aller au bout du projet. Mais je n'avais pas envie de vivre cette grossesse, d'être grosse, de me sentir aller un peu vache. Enfin, voilà, quoi. De ne plus rentrer dans mes fringues. Enfin, voilà, quoi. J'avais pas envie. Et en plus, pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, je devais faire attention à ce que je mangeais. Enfin...
Ouais.
Voilà, donc pas facile. Et en plus, sur la fin, les 2-3-4 dernières semaines, j'avais fort mal au dos, j'avais fort mal dans le bas du ventre. Donc, par rapport à mes deux premières grossesses, c'est une grossesse qui a été quand même plus difficile au niveau des douleurs, surtout sur la fin. je marchais comme un pingouin, tellement ça appuie, ça faisait pression sur mon périnée, quoi.
Ouais.
Mais vraiment, alors que je n'avais pas eu ça pour mes deux premières grossesses. Donc vraiment, je me sentais immonde, quoi. Je me sentais, voilà. Mais et effectivement, j'étais vraiment à l'accouchement partagée entre ces deux émotions. J'étais partagée entre, voilà, je suis enfin arrivée au bout du projet, j'ai tenu ma promesse, je vais pouvoir récupérer mon corps, je vais pouvoir reprendre le sport, remanger comme j'en ai envie, avoir de nouveau l'énergie et pouvoir faire des activités avec mes enfants parce que tout ce qui était balade dans les bois, le vélo et tout ça, c'était fini, j'étais plus capable. Sur la fin, c'était plus possible. Et donc voilà, vraiment cette envie de retrouver mon corps et d'arriver au bout du projet. Mais à côté de ça, il y avait l'autre émotion négative qui était, ben voilà, j'ai vécu pendant les 9 mois H24 avec ce bébé qui a grandi dans mon ventre, que j'ai senti les petits mouvements comme les gros mouvements. Et du jour au lendemain, ben voilà, c'était fini et le bébé, je l'avais pas auprès de moi, quoi.
Alors déjà, comment s'est passée la rencontre ? Est-ce que tu l'as prise dans tes bras ?
Non, ça je voulais pas.
D'accord. Il y avait ton frère et ton beau-frère qui étaient présents. Ton mari aussi ou pas ?
Oui, en fait, effectivement, ça c'était la grande surprise. Ils ont pu assister. En tout cas, à l'arrivée de la petite, les deux papas, ce qui était normalement pas prévu, mais on est tombé sur une sage-femme à l'hôpital qui avait un cœur gros comme ça et qui nous a dit, écoutez, j'ai pris conscience du projet et j'aimerais que les papas soient là et que votre mari soit là pour vous soutenir jusqu'au bout.
Génial.
Et là, c'était juste waouh, quoi. C'était génial. Alors, effectivement, donc les deux papas étaient là à l'arrivée du bébé. Donc ça, c'était super. Et mon mari était là pour moi, pour me soutenir. Et effectivement, donc du coup, quand la petite est sortie, en fait, c'était déjà clair dans ma tête que je voulais pas faire le pot à pot. Parce que comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, le moment magique, c'est quand on a le bébé sur nous. Mmh. Et là, déjà là, ça a été très difficile. Mais alors, de l'avoir sur moi, je pouvais pas imaginer. Je n'aurais pas pu... Je pense que j'aurais pas pu la lâcher, en fait. Enfin,
ouais.
J'aurais eu le cœur, mais encore plus déchiré que ce que je n'ai déjà eu, en fait. Du coup, c'est les papas qui ont fait directement le pot à pot. Alors moi, quand j'ai accouché, ben j'ai rigolé, j'ai pleuré. Quand ils sont partis de la chambre, ben j'ai pleuré parce que la petite partait. Et dans un sens, j'ai rigolé parce que j'étais contente d'être arrivée au bout... et d'avoir accouché aussi au bout de toutes ces heures de souffrance et puis au bout de la poussée et tout ça. Enfin, voilà, pour les femmes qui ont accouché, elles ne peuvent que comprendre. Voilà, et après, voilà, j'ai dormi une nuit à la maternité. Et là, le lendemain, ben, il fallait que je quitte l'hôpital. Et là, de nouveau, la séparation avec la petite, ça a été très difficile.
Ouais.
Ça a été un moment... très, très dur.
Tu as passé un moment avec elle toute seule ?
Toute seule, non, parce que voilà, les papas étaient là et je pense que c'était mieux comme ça. Mais voilà, à 2h de l'après-midi, je quittais l'hôpital les dernières secondes, les dernières minutes ont été très difficiles avant de devoir quitter l'hôpital, en fait.
Ouais.
Ça a été très difficile. J'ai beaucoup pleuré.
Oui, en plus les hormones et tout ça, ouais, d'autant plus.
Oui, les hormones qui ont beaucoup joué aussi, bien évidemment.
Et tu te disais quoi, en fait, à ce moment-là ?
C'est dur à dire. Il y a tellement de choses qui se chamboulent dans ma tête à ce moment-là. Parce que eux, ils étaient... Gaëtan et Raph étaient heureux. Enfin, c'était les plus beaux jours de leur vie, bien évidemment. Et moi, c'était un petit peu l'émotion inverse. Voilà, je voulais pas non plus, j'avais pas envie de gâcher leur bonheur par ma tristesse. Mais voilà, mon frère était aussi très, très, très ému et très en compassion avec ma douleur. Voilà, il m'a prise dans ses bras, il a beaucoup pleuré, il m'a dit, mais enfin, ce que tu as fait, tu m'as donné le plus beau cadeau. Enfin, voilà quoi, c'était un moment très fort. Et très difficile pour moi et très difficile aussi pour lui. Et lui aussi, il était partagé entre deux émotions. Le fait d'avoir enfin son bébé, sa petite fille Et moi qui étais dans la souffrance, donc pour lui aussi, c'était très difficile. Oui. Et les jours et les semaines qui ont suivi ont été difficiles pour lui aussi. De peur pour moi, en fait, aussi.
Et donc, une fois que la petite est née, comment ça se passe au niveau de l'administratif, de l'adoption
Oui, alors, donc, il faut savoir que le gynécologue obstétricien donc, qui nous a aidés, voilà, heureusement qu'il a été là, bien évidemment, parce que sinon, sans lui, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui, mais ça s'est un peu mal passé parce qu'il y a une attestation qu'il n'a pas voulu donner. Il y a un document qu'il n'a pas voulu donner. Et donc, mon beau-frère n'a pas pu faire la procédure normale avant la naissance de la petite et n'a pas pu reconnaître l'enfant. Donc, en gros, la petite, au jour d'aujourd'hui, elle est reconnue par mon mari et moi. D'accord. Mais... ici à l'automne, alors ce qu'on a bien fait, c'est qu'on s'est entouré d'un avocat des familles et donc qui est vraiment spécialisé dans tout ça. Et le peu de mères porteuses qu'il y a, les gens font appel à lui. C'est vraiment okay. L'avocat qui est vraiment spécialisé dans cette matière. Et heureusement qu'on a fait appel à lui parce que à l'automne, ils vont pouvoir reconnaître la petite. Comme il faut. Donc, mon beau-frère va la reconnaître et mon frère va faire la procédure d'adoption. Mais vu que c'est intrafamilial, en fait, ça va aller très vite.
D'accord.
Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile qu'une adoption qui n'est pas intrafamiliale.
D'accord, ok. Alors, toi, la différence, justement, des... enfin, la différence, je ne sais pas, j'en connais pas des tonnes, même aucune, mais... Le bébé reste dans ta famille, donc tu es la tata de...
La marraine.
La marraine.
La marraine même, ouais.
Génial.
Et en fait, le cadeau aussi qu'ils m'ont fait, et ça m'a beaucoup touchée quand ils m'ont annoncé, c'est qu'elle s'appelle Annabelle, et ils ont mis en deuxième prénom le mien, en fait. Mmh. Donc voilà, ça m'a énormément touchée aussi. Et effectivement, le fait que je garde ce lien et ce contact avec cette petite fille, ça m'aide beaucoup parce que en toute honnêteté, j'aurais pas pu le faire pour un bébé que je n'aurais plus vu après.
Ouais.
Voilà, il y a des personnes qui savent le faire et chapeau à elles, vraiment. Mais je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Et c'est parce qu'aussi, c'est pour mon frère, en fait. C'est mon frère. Et depuis, en fait, il faut savoir que quand on était adolescent, on était comme chien et chat, on se disputait beaucoup. Mais à partir du moment où mon papa est décédé, je pense que dans la perte de notre papa, dans la souffrance et tout ça, du coup, on s'est beaucoup rapprochés et on est devenus très fusionnels. Et donc, voilà, vraiment, je l'ai fait vraiment par amour pour mon frère et ça me fait très plaisir de l'avoir. Mais pour juste un couple que je connais pas, j'aurais pas pu.
Ouais. Et alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Parce que ça fait pas si longtemps que ça, finalement.
Non.
Ça fait quelques mois.
Ça fait un mois et demi, en fait. Elle est née le 24 août, donc ça fait un mois et trois semaines. Et alors, les deux, trois premières fois où j'ai été la voir chez mon frère, là, de nouveau, hein, beaucoup d'émotions, très difficiles, la séparation et tout ça. Il y a une heure et demie de route. Pendant une heure et demie, voilà, je pleure beaucoup. Donc, les deux, trois premières fois, ça a été très difficile. Et là, maintenant, quand je la vois, ça commence à être plus facile, en fait.
Ouais.
Ça commence à être plus facile quand on se quitte. Voilà, effectivement, je suis très émue et ça reste compliqué, mais je ne pleure plus en tout cas et émotionnellement, c'est moins lourd.
Ouais. Est-ce que vous avez établi des règles, si on peut appeler ça comme ça, mais est-ce que tu peux l'avoir quand tu veux ou au contraire, il vaut mieux limiter
Alors en fait, là, on a été vraiment, il n'y a aucune règle. C'est juste les règles, en fait. En gros, c'est moi qui me les suis mises. Enfin, c'est même pas vraiment des règles, c'est plus comment je le ressens émotionnellement. Si je suis dans une bonne émotion, je vais la voir, même si je sais qu'à ce moment-là, ça reste difficile. Et si je suis dans une mauvaise émotion, je ne la vois pas. Parce que la voir pour essayer de me sentir mieux, ça ne fonctionne pas.
Oui.
Voilà, ça ne matche pas. Voilà, et pour l'instant, la seule chose que j'ai pas encore su faire, c'est passer une nuit là-bas, parce que je ne sais pas si elle pleure la nuit et tout ça, comment je vais réagir. Mais je préfère, en tout cas pour l'instant, ne pas encore aller passer une nuit là-bas. Mais sinon, ça se passe très bien. Je l'adore, elle est adorable. C'est un ange, elle est très facile, elle passe déjà ses nuits. Eux, ils s'en occupent à merveille. Je l'avais imaginé parce que je ne l'aurais jamais fait pour, si j'avais été dans le doute de savoir qu'ils ne s'en occuperaient pas bien, en fait. Je le savais qu'ils allaient bien s'en occuper, j'en étais persuadée. Mais là, c'est encore mieux que ce que j'imaginais.
Ils sont gaga.
Elle est vue, complètement. Et mon frère, en fait, et c'est pour ça que j'en parlais au début de l'enregistrement, quand je disais que j'étais très stressée par rapport à mes bébés à moi, par rapport à la mort subite et tout ça, que je me réveillais régulièrement la nuit pour écouter s'ils respiraient bien et tout ça. En fait, mon frère a fait la même chose que moi.
Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui...
Je pense.
Qui font ça.
Je pense, mmh. Tout à fait.
Ouais, c'est
mais
vrai.
Là, le fait que mon frère, qui n'est pas une maman, qui n'a pas porté le bébé,
ouais, c'est vrai.
Le fasse aussi, enfin voilà, ça m'a fait rire et
voilà. Ça a dû te rassurer aussi.
Ça m'a rassurée aussi parce que je me dis, elle est vraiment entre de bonnes mains, vraiment. Que ce soit par mon frère ou mon beau-frère, ils sont géniaux. Ouais. Vraiment.
Vous en avez reparlé avec ton frère depuis l'accouchement ? Vous en parliez régulièrement ?
Oui, c'est pas du tout un sujet tabou. Mmh. Il demande régulièrement de mes nouvelles, il demande comment je vais. On a fait beaucoup de sorties, des restaurants, des petits week-ends avec les enfants. Ici, dans 2 semaines, c'est un petit peu le voyage de la récompense. On part à l'île Maurice pendant 2 semaines.
Ah.
Donc ça j'attends vraiment, j'ai très envie de partir, ça me fera énormément de bien. J'en ai besoin de ce voyage, je suis très contente aussi parce que j'avais très peur par rapport au coronavirus de ne pas pouvoir partir. Et donc voilà, on essaye de me changer les idées un maximum. Il faut que j'ai l'esprit occupé en fait.
Ouais.
Voilà, il faut, par mon activité, de par des activités avec les enfants... Avec mon mari, il faut que j'ai l'esprit occupé. Et ça m'aide beaucoup.
Est-ce que tu arrives à rendre concret ce qui s'est passé cette année, ce geste incroyable que tu as fait pour ton frère ? Est-ce que,
Oui, pour moi, c'est très concret. Tout ce qui s'est passé du début à la fin, ça n'a été que du concret. Et j'ai vraiment réalisé ce qui se passait, en fait. Mmh. Tout à fait.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Alors, par rapport à mes enfants, de toute façon, maintenant, ma vie tourne autour d'eux. Et vraiment, quand on a des enfants, en fait, avant d'avoir des enfants, on est centré sur nous, sur notre couple. J'étais très centrée sur mon mari, que j'aime très fort. Parce que vraiment, on a eu moi en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Mmh. Mais alors, à partir du moment où j'ai eu mes bébés, notre centre d'intérêt est totalement chamboulé, en fait. Et du coup, notre monde tourne autour de nos enfants. Voilà, et je les aime. Enfin, je pourrais vraiment donner ma vie pour eux. Ça, c'est certain. Et là, ici, pour la grossesse de la petite et sa naissance, ce qui a changé, en fait, c'est que j'ai grandi. Humainement, j'ai grandi. Ça, c'est certain. J'ai pris... je pense que j'étais déjà quelqu'un de mature et de réfléchi avant ça, mais là encore plus. Et en fait, si c'était à refaire, malgré les difficultés, malgré qu'émotionnellement, ça a été très difficile, il y a eu de très bons moments aussi, et il y en a encore, et il y en aura encore, parce qu'en fait... ce lien privilégié avec ma filleule, ça va durer des années. Mmh. Mais j'ai grandi. Clairement, humainement, j'ai grandi et je pense que vraiment, ce serait à refaire. Je recommencerai. Mais je ne le referai pas encore une nouvelle fois là maintenant. Hein. Je ne ferai pas une quatrième grossesse. Hein, ça non.
Si ton frère en veut un deuxième et qu'il nous écoute, la réponse est non.
Si jamais j'ai une deuxième sœur, on est trois. J'ai une sœur encore plus jeune que moi qui n'a pas encore de bébé. Mais si jamais ils veulent un deuxième d'ici quelques années, ils pourront lui demander, mais moi là c'est bon, je... Puis j'ai vraiment envie de me retrouver, de reprendre le sport, de perdre du poids, de me retrouver avec mon chéri, parce qu'il faut savoir aussi que dans notre vie intime avec mon mari, ça n'a pas été toujours facile non plus.
Oui.
Mais là c'est bon quoi. Je suis très contente de l'avoir fait. Et je n'ai aucun regret, mais je ne ferai pas de quatrième grossesse.
Et il est temps de penser à toi et à...
Oui, tout à fait. Et puis à mon activité aussi, du coup, qui a été un petit peu mise entre parenthèses. Voilà, il faut que je remette toute mon énergie dedans. Et dans ma famille, mon mari, mes enfants qui ont besoin de moi. Enfin, voilà quoi.
Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman belge ?
Être une maman belge, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, de toute façon, je pense que ça ne change pas grand-chose. Hein. Qu'on soit asiatique, africaine, américaine, canadienne, peu importe, belge, française, on reste des mamans. Hein. On reste des mamans. Je pense que d'être belge, ça ne change rien. À part le fait que ce soit légalisé pour la GPA. Et ça, vraiment, ça a été une grande chance pour nous que la Belgique et en plus la Wallonie, que ce soit toléré, ben, ça a été vraiment une grande chance. Hein, parce que sinon, ils n'auraient toujours pas leur bébé à l'heure actuelle.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré où tu vis ?
Dans les bois. Dans les bois. J'adore y aller, même moi seule, alors qu'on est vraiment dans une région très campagne, nature, forêt et tout ça. Et avant, j'habitais en ville. Et donc là, je savoure le fait d'être dans la nature, dans les bois, d'avoir notre jardin. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, on était en appartement. Et donc, on a vécu le confinement, le coronavirus et tout ça en appartement. Très difficile, surtout avec les loulous. Mais là, de pouvoir aller dans le jardin, dans les bois et tout ça, voilà, c'est le kiff total, quoi.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille ?
Alors, les projets, rien que pour moi, c'est comme toujours, c'est vivre ma vie à fond, croquer la vie à pleines dents, c'est voyager, c'est mon business que j'adore parce que, en fait, mon business, en gros, c'est créer le lien avec les gens. Et ça, j'adore le lien, le contact humain, c'est très important pour moi. Et alors, ma chance avec ce business, c'est de pouvoir le faire à l'international et de pouvoir parler avec des gens qui ont d'autres traditions, d'autres cultures, qui vivent dans d'autres pays à l'autre bout du monde. C'est très riche pour moi, j'adore ça. Donc voilà, pour moi, ça me nourrit énormément. Et pour ma famille, ben, c'est de leur apporter... une belle vie, les voyages, de subvenir à leurs besoins, que ce soit financier ou besoin, que ce soit spirituel ou peu importe. C'est très important pour moi, donc voilà, mais vraiment croquer la vie à pleines dents parce qu'on n'en a qu'une et elle peut basculer du jour au lendemain et donc on doit en profiter. Et ça, je l'ai appris malheureusement suite à la mort de mon papa. Voilà, ça a été vraiment un gros drame dans ma vie, mais dans un sens, c'est suite à ça que j'ai cet esprit de il faut profiter de la vie, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Virginie.
Merci à toi, Shane, et ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.